Moi, je suis le professeur Laurent Tinès, je suis neurochirurgien au CHRU de Besançon. Mon métier, moi, c'est un métier qui consiste à soigner les maladies du système nerveux central par la chirurgie. Dans le service, on opère des patients qui ont des pathologies, des tumeurs cérébrales, des anévrismes cérébraux et aussi des maladies de la colonne vertébrale, les hernies discales, au niveau cervical, au niveau lombaire. Et puis aussi, on fait 30% de notre activité est représentée par des urgences qui, en particulier, concernent les traumatismes du crâne. Et donc, on est amené à soigner aussi des patients qui vont avoir des accidents de la route et des fenestrations, traumas crâniens lors de chutes ou lors de RIX, de choses comme ça. Donc, on est amené à gérer aussi des urgences très graves. Et donc, en fin d'année 2018, début 2019, moi, j'ai vu tous ces blessés s'accumuler tous les week-ends avec des blessures extrêmement graves. On a vu des blessés au niveau du corps avec des gens qui ont eu des fractures de membres, des fractures de mains. Il y a même un blessé à Nantes qui a eu une fracture de rate par un impact au niveau du flanc, du côté gauche, qui a fait une hémorragie interne, qui a dû être opéré de sa rate, etc. Il y a eu un blessé à Paris, un monsieur du Jura, qui a une plaie à 2 mm de la carotide, par un tir de LBD qui a failli mourir du coup de cette blessure. Et puis après, il y a eu beaucoup de blessures au niveau du massif facial. Hein. On a vu des blessés qui avaient des délabrements avec des grandes plaies au niveau du visage, des visages éclatés, des mâchoires éclatées. On a vu tous ces blessés avec des atteintes oculaires, hein, puisque maintenant, il y a 25 personnes qui ont été éborgnées depuis novembre 2018. Et enfin, il y a eu des blessés au niveau crânien, et c'est là que moi j'interviens. Parce qu'en fait, quand j'ai vu les blessés crâniens graves, il y a eu un monsieur à Toulouse, il y a eu le pompier volontaire à Bordeaux aussi qui a été blessé gravement au niveau du crâne. Moi, j'ai pu consulter les imageries de ces personnes et j'ai retrouvé des blessures aussi graves que je pouvais rencontrer moi dans ma pratique, qui sont des accidents de la route ou des gens qui se sont fait tabasser à coups de batte de baseball ou des choses comme ça, avec des crânes enfoncés, des hémorragies cérébrales, des gens qui sont restés plusieurs jours dans le coma, qui ont dû avoir des opérations au niveau crânien et qui ont gardé des séquelles. Soit avec des faiblesses au niveau de des paralysies, des troubles de mémoire, des troubles de visuel, des troubles du langage. Et donc, moi, ça m'a beaucoup choqué, en fait, parce que je ne m'attendais pas du tout à avoir des blessures aussi graves que ça sur des gens qui revenaient de manifestations. Et donc, en début d'année, en janvier 2019, moi, je me suis questionné sur pourquoi la communauté médicale ne se prononçait pas sur ces blessures. Je trouvais ça complètement fou que personne, aucune des sociétés savantes, aucun des médecins au niveau national prenne la parole sur la gravité de ces blessures pour dire stop, quoi. Parce que nous, les médecins, on est les soignants en général, on est bien placés pour savoir les conséquences que ça a sur le long terme, toutes ces blessures. Un patient, par exemple, qui va avoir un massif facial fracassé par un tir de LBD. Et on l'a vu, par exemple, le jeune Lilian à Strasbourg, touché par un tir de LBD alors qu'il n'était même pas manifestant, qu'il sortait d'un magasin où il avait, à Gosport où il a acheté des baskets, je crois. Il est sorti, il s'est pris par hasard un tir de LBD dans le visage et il a dû être opéré plusieurs fois au niveau de sa mâchoire. Il a eu un fixateur externe, il a dû boire à la paille pendant plusieurs semaines. Et puis au-delà de ses blessures non physiques, de ses opérations multiples, on sait aussi les conséquences psychologiques qu'il y a avec ces blessures. La dépression, il y a les gens qui vont perdre leur travail, il y a les gens qui vont avoir des problèmes familiaux. On a vu beaucoup de blessés qui avaient des histoires de couple aussi après, des blessures graves comme ça. Parce que les gens sont pas bien dans leur peau, ils sont tristes, ils peuvent faire des dépressions réactionnelles. Et ça crée des difficultés personnelles très importantes, perte de travail, des pertes d'argent. Et on voit les conséquences sur la vie de tous les jours aussi pour tous ces gens. Ce n'est pas simplement une blessure comme ça, hop, et puis c'est fini. En fait, c'est des choses qui vous détruisent ou qui chamboulent votre vie, en fait. Et donc, voyant ça et voyant le silence de la communauté médicale, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire, nous soignants, pour essayer de défendre ces gens, pour essayer de dire, déjà, reconnaître qu'ils sont blessés graves. Parce qu'à l'époque, en début 2019, on parlait des armes déjà en disant que c'était des armes qui n'étaient pas très dangereuses. On disait les balles de LBD, c'est des balles en mousse. On disait, oui, mais non, en fait, ils n'ont pas tant de blessures que ça, ou ils l'ont bien cherché. On ne parlait pas quasiment d'eux, en fait. Heureusement, il y a David Dufresne, qui est un documentariste et journaliste, qui avait mis en place un recueil prospectif des blessures graves sur Alloplast Beauvau, qui a permis à tout un chacun de voir un peu le nombre de blessés importants qui s'accumulaient. Moi, ça m'a permis aussi d'avoir mise à jour régulière en fait, de toutes ces blessures. On avait vraiment une documentation vraiment fiable et très précise en fait, de l'arme qui avait été utilisée, de type de blessure, la gravité des blessures, etc. Ça m'a permis de constater que toutes les semaines, il y avait de plus en plus de blessés graves. Fin janvier 2019, j'ai lancé cette pétition des soignants français pour un moratoire contre les armes sublétales ou qu'on dit aussi moins létales. Ces termes qui sont des euphémismes, en fait, masquent une réalité qui est que ces armes sont extrêmement dangereuses. Et donc cette pétition, ça permettait à la communauté soignante, que ce soit des médecins, il y a des kinés, des psychologues qui ont signé cette pétition. Maintenant, il y a 180 000 signataires. Et ce qu'on demandait, c'est de dire stop à l'usage de ces armes qui est indigne de notre pays, qui est le pays des droits de l'homme. On ne peut pas répondre à une contestation populaire en leur tirant dessus avec des armes de guerre. On voulait un moratoire, ça veut dire l'arrêt de l'usage de ces armes en France, parce qu'on considère que ces armes sont très dangereuses. Leur usage n'est pas justifié, donc c'est comme ça que j'ai lancé cette pétition. Et c'est ce qui a permis, en plus de toutes les autres actions qui étaient déjà menées en parallèle, d'apporter la parole des soignants sur cette question, en fait. De permettre qu'on reconnaisse la gravité des blessures, et ça a permis de documenter la dangerosité de ces armes. C'est des armes de guerre. Donc, par exemple, le LBD 40, c'est une arme qui va tirer une balle en caoutchouc dur, qui pèse à peu près 40 grammes. C'est un caoutchouc très dur, hein. C'est quasiment comme du bois, quoi. Projeté à 326 km/h. Okay. Et donc, quand cette balle vous touche à 25 mètres, l'impact sur le corps, sur la surface où ça touche, puisque la balle fait 40 mm, hein, donc sur une petite surface, ça va avoir un impact de 210 joules. Donc 210 joules, quand on vous dit comme ça, ça ne vous parle pas. Et donc c'est pour ça que moi j'ai pris une analogie très simple pour expliquer ce que c'était 210 joules. C'est la même énergie que vous allez recevoir sur votre corps que si on vous lâchait sur le visage un parpaing de 20 kg qu'on vous lâche d'une hauteur de 1 mètre. Donc vous imaginez qu'on met votre tête par terre et on vous lâche un parpaing de 20 kg sur la tête. Quand on dit ça, vous comprenez tout de suite que quand ça va toucher votre visage, ça va faire mal. À 25 mètres, c'est 210 joules. Donc c'est un parpaing qu'on vous balance dans la figure. Okay, donc vous imaginez à 10 mètres, ou comme on a vu récemment, à 2 mètres, quand on vous tire dessus à bout portant quasiment avec cette arme. C'est une arme qui est mortelle en fait. Donc si on vous touche un point vital avec cette arme, par exemple au niveau du thorax, si on vous touche dans la région du cœur, vous pouvez faire un arrêt cardiaque par commotion, contusion du cœur. Et au niveau du crâne, les blessés qui ont été touchés, qui ont eu le crâne enfoncé, des hémorragies cérébrales, etc., ils auraient pu faire une hémorragie cérébrale beaucoup plus grave et mourir. On l'a bien vu, le LBD, quand vous prenez un bal de LBD dans l'œil, vous avez l'œil explosé, quoi. Donc là, il y a 25 personnes maintenant qui sont éborgnées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a, ensuite, dans le courant de l'année, il y a eu 35 ophtalmologistes, la Société française d'ophtalmologie, qui ont eu le courage d'écrire une lettre ouverte à M. Macron, M. Castaner, Mme Buzyn, pour demander ce que nous, on avait déjà demandé en janvier, c'est-à-dire un moratoire sur l'usage du LBD 40, pour l'interdire, parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont utilisé ce terme, une épidémie de blessures oculaires jamais vue en France. Il n'y a eu aucune réponse. Ensuite, il y a d'autres armes qui sont utilisées, ce sont les grenades explosives. Donc ça, c'est les grenades Gli F4, qui contiennent du TNT et qui libèrent aussi un gaz lacrymogène, qui sont des grenades assourdissantes, donc qui créent une explosion qui fait 165 décibels. C'est comme si on vous mettait d'un coup à côté d'un réacteur d'avion au décollage. Donc ça peut vous perforer les tympans, ça peut vous créer une surdité à vie. Et après, il y a les grenades de désencerclement, qui sont des grenades qui projettent des palets sur 15-20 mètres autour. C'est comme si on vous envoyait 10 boules de pétanque dans le corps à l'impact. Ces armes-là, quand on décrit déjà comment elles fonctionnent, on voit bien que ce sont des armes qui sont faites pour blesser gravement. Donc on n'est pas surpris en fait qu'il y ait des blessures graves. Elles sont faites pour ça. On a eu deux articles scientifiques médicaux qui ont été publiés. L'un des articles a été publié par les équipes de chirurgie maxillofaciale de la Pitié-Salpêtrière, parce qu'à Paris, il y a eu beaucoup de blessés pendant les manifestations, sur les blessures au niveau du visage. Et il y a eu un deuxième article qui a été publié dans le Lancet sur les blessures oculaires. C'est des articles importants qui montrent bien aussi la gravité des blessures et pour le coup qui montrent scientifiquement ce qu'on dit depuis janvier, mais ce que d'autres avaient déjà dit, même avant 2018, puisqu'on sait qu'avant le mouvement des Gilets jaunes, il y avait déjà eu 53 personnes qui avaient été blessées gravement par ces armes sur différentes populations. Alors, il y a eu des lycéens qui ont été éborgnés, il y a eu des jeunes de banlieue qui ont été blessés, il y a eu des écologistes qui ont été gravement blessés. Alors il y a eu plusieurs sites, il y a eu à Bure, il y a eu à Notre-Dame-des-Landes, il y a eu à Sivens, où il y a eu des blessés graves, en particulier Rémi Fraisse, qui est mort d'une blessure par une grenade au FF1, qui lui a explosé la colonne vertébrale, et en fait, il est mort sur le coup. Et donc, il y avait déjà beaucoup de blessés. Mais là, en fait, depuis le mouvement des Gilets jaunes, c'était depuis novembre 2018, on est passé de 53 blessés à 450 blessés graves. On a 10 fois plus quasiment de blessés en un an de manifestation populaire qu'en 20 ans d'usage de ces armes. Le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, est responsable de ces hommes, les policiers qui sont dans la rue, qui utilisent ces armes. Donc en ne retirant pas ces armes des mains des policiers, il est de fait responsable des blessures qui sont occasionnées. Le but n'est pas d'accabler les policiers. Le but est de dire que quand on met des armes de guerre dans les mains de forces de l'ordre, à un moment ou à un autre, elles vont les utiliser. On a eu plusieurs rappels à l'ordre en début d'année. Après la pétition en janvier, il y a eu un rappel à l'ordre des forces de l'ordre. Là, il y a eu de nouveau un rappel à l'ordre de M. Castaner aux policiers en disant qu'il fallait respecter l'éthique et les règles d'usage de ces armes. Par exemple, pour le LBD-40, on sait très bien qu'il ne faut pas viser la tête, le cou, le cœur, et que les seules zones, finalement, c'est le bas du corps, de l'abdomen, sans viser les parties génitales, et puis les quatre membres, finalement, qu'on peut viser. C'est des armes qui sont très précises aussi, ça, on a oublié de le dire. C'est pour ça que le constructeur a donné des consignes, parce qu'avec le viseur holographique qu'il y a dessus, la cible qui est visée est quasiment toujours touchée, en fait. Donc, quand on vise la tête, on touche la tête, en fait. Et une autre arme dont on n'a pas parlé, qui aussi fait partie de la même catégorie, ce sont les grenades lacrymogènes. Comme il y a une ogive de propulsion des palais, cette ogive elle-même est un projectile qui peut être très mutilant. On a vu un monsieur qui a été blessé à Paris, qui a perdu un œil par un tir d'ogive lacrymogène dans le visage. Et puis on n'oublie pas, surtout, Madame Zineb Redouane, qui est une dame 80 ans, qui était à sa fenêtre à Marseille en décembre, qui n'était pas manifestante, encore une fois, qui regardait juste de sa fenêtre la manifestation et qui a pris un tir de lacrymogène dans le visage. Ça lui a fracassé le visage. Et en fait, elle est morte après, dans les suites de son opération à l'hôpital. Les grenades défensives sont des armes qui doivent être utilisées au sol et surtout pas lancées par-dessus la tête des manifestants. J'étais allé au 1er mai à Paris pour porter ma banderole et demander aussi l'arrêt de l'usage de ces armes. J'ai vu des policiers qui ont lancé au-dessus de la foule des grenades de désencerclement, des Gli F4, ce qui est complètement dingue parce qu'en fait, si vous prenez une explosion de Gli F4 à hauteur de la tête, ben vous êtes mort tout simplement. Donc ces règles, elles existent. La direction de la police nationale elle avait mis en place aussi des consignes très strictes sur l'usage de ces armes. Et on voit bien qu'il y a une dérive qui se fait dans l'usage de ces armes au fil du temps et qui fait qu'on est obligé de rappeler à l'ordre, mais au final, ça ne change pas les pratiques. Donc la seule solution qu'il y a, ce n'est pas de faire des nouvelles règles ou de rappeler à l'ordre les gens. C'est simplement de retirer les armes. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ces armes doivent être utilisées qu'en cas d'extrême nécessité. Le LBD-40 ou les grenades défensives sont des armes qui permettent aux policiers, par exemple, de s'extraire d'une situation où leur vie serait en danger, attaquée par un groupe qui voudrait nuire à leur intégrité. D'accord ? Donc c'est la seule circonstance dans laquelle ils doivent les utiliser. Et en fait, on voit que ces armes, qui sont normalement des armes pour se défendre, sont de plus en plus utilisées pour attaquer les manifestants. Ce qui est une dérive complètement aberrante de l'usage de ces armes. La quasi-totalité même des blessés graves qui ont été mutilés ne ont été condamnés pour aucun délit. D'accord ? Donc ça montre bien qu'à un moment, si on tire avec une arme de guerre sur un manifestant parce qu'il est dangereux, la logique voudrait que derrière, on lui reproche un délit grave. D'avoir tenté de blesser un policier, d'avoir tenté de mettre le feu à un immeuble, ou des choses très graves. Or là, en fait, on se rend compte que tous ces blessés graves dus à ces armes-là, en fait, n'ont jamais été condamnés pour quoi que ce soit. Donc c'est bien aussi qu'il y a eu un usage disproportionné de la force. Et ça montre bien aussi ce que je disais tout à l'heure. La conclusion, c'est que il faut retirer ces armes des mains des policiers parce que dans le feu de l'action, avec le stress, avec la colère, parfois aux provocations des manifestants, certains policiers sortent des limites de la doctrine, sortent des limites de leur éthique professionnelle, sortent des règles qui sont édictées par la police nationale ou par le constructeur de ces armes et utilisent ces armes un petit peu comme si ils mettaient une claque ou un coup de poing à un manifestant. Sauf qu'un tir de LBD dans le visage, c'est pas un coup de poing. Et donc les conséquences sont gravissimes.